Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Et bonjour à tous ce matin dans les grandes gueules du sport. On sait que vous êtes très nombreux à nous écouter lors de votre sortie à vélo, en running. Tiens, on a des participants à RMC aux 20 km de Paris ce matin, notamment notre producteur Maxime Abolin. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter là pour tenir le coup jusqu'à l'arrivée au Trocadéro. Les grandes gueules du sport ce matin, Pascal Duprat est là. Salut Pascal.
Bonjour Georges, salut les amis.
Je passe mon week-end avec Pascal. On a fait une émission ensemble hier, les premiers.
C'est notre premier week-end.
Ouais, c'est ça.
Tous les deux.
C'est... Voilà. Franchement, c'est très sympa ce week-end ensemble.
Écoute,
Pascal,
je n'en dirai pas davantage.
Cédric Evans est là. Salut Cédric.
Bonjour à tous.
Ça va?
Mais
on est content que tu sois titulaire parce que tu as des grands matchs de rugby, parfois les titulaires ne sont pas là.
Ouais, j'ai été sélectionné, je suis là. Et on verra pour Bordeaux.
Ah, et oui, Stade Toulousain, UBB, on va en parler tout à l'heure, il manque quelques stars.
T'es à Brive, t'es un peu entre Bordeaux et
au milieu.
Toulouse, là.
Et je suis au milieu, donc.
T'es surtout au milieu de nulle part à Brive.
C'est facile.
Première fois qu'on se jette.
Vous avez compris que ce n'est pas forcément la GG de la bienveillance. C'est nous, GG. Jérôme Pinault. Salut, Jérôme.
Salut, Georges. Bonjour à tous.
Tout va bien?
Super bien. Ouais, petit week-end semaine. Parisien, tranquille.
Petit week-end parisien, commenter le Tour de Lombardie. Notamment, le plus beau d'entre nous est en studio. Vous savez qu'ils veulent tous participer. Elles veulent toutes participer avec lui au jeu du sport. C'est Christophe Cessieux qui est là. Salut Christophe, ça va?
Oh, dis donc, c'est pas parce que t'as trouvé. J'ai envoyé téléphoner ma cousine.
Ah, si vous n'étiez pas là hier au jeu du sport, on a une auditrice qui a appelé et a dit: je veux jouer avec Christophe parce que je suis un petit peu amoureux de lui. Voilà. Ah. Après, elle a dit.
Amoureuse.
Après, elle a dit un petit peu quand même, hein, elle a précisé.
Oui, c'est ce que je veux dire. Physiquement, t'as déjà vu.
Je lui ai fait. Qu'est-ce qu'on a gagné? Et qu'est-ce qu'elle a gagné là?
Un PC portable de la marque Altic installé à Nantes.
Rien, quoi.
Ouais. Voilà. Bien sûr.
Avec toi, Madame Cessieux n'a qu'à bien se tenir. Avec moi, ils vont pas gagner, jamais gagner.
Ah, bah c'est super. Là, tu vas motiver les auditeurs pour participer avec toi.
Si tu peux éviter de me le mettre dans les pattes dans l'équipe.
Bah c'est bien, voilà, bienveillance ce matin.
Moi je suis en forme ce matin, Cessieux un peu moins, j'ai l'impression.
Il est pas en forme, Cessieux.
Mais il fume un peu noir, mais
non, mais moi je n'habite pas à Paris, donc quand je vais à Paris le week-end, tout le monde veut me voir.
Faut arriver tardivement.
Allez, le programme des grandes gueules du sport.
Matin, comme Jérôme.
À 10h sur le ring, c'est l'événement de la journée du tennis, duel de cousins en finale du Masters 1000 de Shanghai. Le français Arthur Rinderknecht affronte son cousin monégasque Valentin Vacherot. Est-ce la meilleure ou la pire finale possible pour le français? C'est la question qu'on va se poser, alors qu'aucun tricolore n'a remporté un tournoi de cette valeur depuis 11 ans. On va suivre cette finale en direct dès 10h30.
Le seul truc qui me gêne, moi j'aimerais pas avoir un cousin monégasque.
Vous êtes à l'écoute de Radio Monte Carlo. Dans le zapping, on va parler du choc de la journée du top 14. Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles, ce soir 21h05 en intégralité sur RMC. Captain Cessieux prend le brassard ce dimanche pour adresser un message à Antoine Dupont.
Ah bah oui, attention Antoine. Antoine, on le voit partout. Enfin, on le voit surtout au Festival de Cannes. On le voit avec sa fiancée Miss France et tout ça. Mais il est très jaloux. Attendu sur
Miss
les
Univers, Miss Univers.
Par tous ceux qui
au-dessus
s'interrogent et s'inquiètent. Va-t-il redevenir le Dupont que l'on connaissait? Eh ben, on va voir ça.
Cédric Aymon, c'est déjà dans les starting blocks pour répondre. C'est tout à l'heure. Les GG remontent le temps. Là, je suis sûr, ça va vous faire réagir aussi. Les Box battaient le 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans.
Non.
On va les retrouver dans un mois au Stade de France et ils nous chambrent déjà. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Je vous demandais tout à l'heure. Et puis, dans votre vestiaire, comment gérer la perte de confiance alors que Warren Zahir Emery a eu un discours très sincère sur ce qui traverse en ce moment? Vous allez nous partager vos expériences. En fin d'émission, les jeux participez avec vos GG et remportez, peut-être grâce à Christophe encore, votre PC portable Altic. Je vous le disais, marque d'ordinateur français installée à Nantes. Pour participer, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. 3216 aussi pour parler avec vos GG et notre WhatsApp 06-12-424-424. Mais d'abord, est-ce que le plus grand de tous les temps est déjà parmi nous?
RMC. La une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour Mathieu Van Der Poel. C'est parti Mathieu Van Der Poel. Le maillot jaune qui lance ce sprint. Tadej Pogacar dans sa roue. Jonas Vingegaard juste derrière. Et l'accélération de Tadej Pogacar à la lutte avec Mathieu Van Der Poel. Victoire de Tadej Pogacar.
Et Tadej Pogacar qui va démarrer. Il se dit il faut que j'attaque vite. Est-ce que Tadej Pogacar est plus costaud que Vingegaard? Il est collé Vingegaard. Est-ce qu'il va réussir à attraper? Non, victoire de Tadej Pogacar devant Vingegaard. On est au pied de la dernière difficulté. Se retourne Narvaez. Ah, Vingegaard qui cale vite. Déjà attention Pogacar qui accélère. Il reste 12 km à parcourir.
Le Tour de France est plié. Tadej Pogacar qui va s'imposer dans un instant. Il est le vainqueur de cette première étape de haute montagne.
Le maillot de champion du monde est complètement déchiré. Il est sali, mais c'est bien Tadej Pogacar, les deux bras levés, qui s'impose et qui passe la ligne à nouveau ici à Sienne.
Tadej Pogacar qui remporte donc deux Tours des Flandres.
Oh là là, il reste quelques mètres seulement avant l'arrivée. Oui, 300 mètres, on les voit au loin. Ils arrivent sur cette ligne. Oh là là, ils sont... Mais ça va se jouer à la photo finish. Qui a remporté cette Amstel Gold Race? Ça va se jouer à la photo finish.
Il peut se dégourdir les jambes, Tadej Pogacar. Il a attaqué dans l'avant-dernière ascension. On savait qu'il allait porter les stockades. Il peut serrer le poing, sourire. Il va aller s'imposer pour son cinquième Tour de Lombardie. Tu le disais, cinquième d'affilée. Jamais un homme n'a remporté le même monument cinq fois d'affilée. Le salut, la tête baissée de Tadej Pogacar. L'immense champion, la légende s'écrit encore un peu plus ici sur le Tour de Lombardie. Victoire du champion du monde.
Je suis en train de me dire, pour certains, ce qu'on a écouté, c'est le résumé de toute une carrière. Pour lui, c'est juste une saison, en fait. Tadej Pogacar, qui vous a, tous les commentateurs vélo d'RMC, beaucoup fait monter en décibels cette année. Il est cette fois-ci parti seulement, le petit joueur, à 36 km de l'arrivée. Mais c'est bien lui qui s'est encore imposé en solitaire. Tadej Pogacar a remporté hier un cinquième Tour de Lombardie consécutif. C'est lui jamais vu, en fait. Il égale en nombre de victoires la légende Fausto Coppi au terme d'une saison gargantuesque. Et je vais même pas avoir le temps de tout dire. Nouveau titre de champion du monde, champion d'Europe, quatrième Tour de France avec quatre étapes. Le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège. Total, 20 succès cette saison, tous de prestige, à 27 ans. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, avec sa saison 2025, Pogacar est-il désormais seul le plus grand cycliste de tous les temps? Jérôme Pinault.
Oui.
Waouh. Christophe Cessieux.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
Cédric Emmons.
Oui.
Ah, c'est partagé. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp, donc 06-12-424-424. Maria Azé nous rejoint. Salut Maria.
Salut Georges, salut à tous.
Depuis la Lombardia, où tu étais hier pour le nouveau sacre historique de Poggi. Ah ouais, excuse-nous, on ne maîtrise pas tout l'accent italien comme toi, Jérôme. Quel était le discours chez le Slovène, son équipe et ses adversaires au terme de cette saison invraisemblable hier, Maria?
Alors déjà, on a commencé par interroger les Italiens, les Tifosi. Alors eux ne voient toujours que par Fausto Coppi, qui s'est fait égaler hier avec la cinquième victoire de Pogacar sur le Lombardie. Pas facile pour eux de trouver un mot pour décrire le Slovène.
Incredibile, spettacolare.
Dio, fantastico.
Car on ne compte plus les records du Slovène. Premier coureur à remporter le Lombardie 5 fois de suite, 5 podiums sur les 5 monuments cette année, du jamais vu dans l'histoire du cyclisme. Le bilan est excellent pour le Slovène.
Oui, ça a été une année superbe qu'on termine en gagnant le Lombardie. Il reste quelques courses à l'équipe, mais pour moi, ça y est, c'est fini. C'est la meilleure saison de ma carrière.
Ever. 20 victoires cette saison, 5 de moins que la saison dernière, mais le Slovène compte un grand tour en moins, une année parfaite, mais pas question pour Mauro Gianetti, son manager, de le comparer aux 19 monuments d'Eddy Merckx ou même aux autres légendes du cyclisme.
Lui, il est déjà un peu l'histoire contemporaine. Il a fait des choses que les autres dans le passé, ils n'ont pas fait. Il lui manque des choses à faire que les autres dans le passé, ils ont fait. C'est pas simplement un coureur cycliste très fort, c'est pas un phénomène du vélo, c'est un phénomène du sport.
Reste à Remco Evenepoel, éternel deuxième hier, à trouver les clés pour battre le Slovène en 2026.
Il y a cette accélération qui pour le moment est un peu trop dure et trop forte pour moi. C'est clair qu'on doit regarder ça, on doit travailler sur ça. On va essayer de réduire l'écart et puis j'espère d'être à son niveau l'année prochaine.
Tadej Pogacar, lui, va prendre des vacances avant de se projeter sur l'année prochaine avec un objectif, remporter les deux monuments qui manquent à son palmarès, Milan-San Remo et Paris-Roubaix, où il devra faire face à son adversaire préféré, Mathieu Van Der Poel.
Merci Maria, au terme de cette saison historique donc de Tadej Pogacar, c'était intéressant d'entendre tout le monde et même les tifosi face à l'incredible Pogacar.
L'un qui a dit Dieu, c'est Dieu.
Dio. Jérôme, pour toi c'est déjà le plus grand de tous les temps? Oui. Devant Merckx, hein, donc. Hein.
Oui, pour moi, oui, parce que les époques déjà ne se comparent pas et les records qu'il est en train de mettre en place, il vient de battre ce record de ses victoires dans les monuments sur la même saison et il est surtout dans une lancée. Il est, comme le dit son manager général, Mauro Gianetti, il est déjà dans la légende du sport en général et il est en train d'écrire. Et c'est pas fini. Et la manière dont il gagne les courses et dont il écrase la concurrence, qui n'est pas faible. On a entendu parler de Remco Evenepoel. Alors évidemment, Christophe me dira, Luis Ocaña et autres à l'époque. Mais aujourd'hui, dans ce cyclisme-là, dans ce sport-là, avec toutes les connaissances que l'on peut avoir, toute la possibilité d'avoir des scientifiques pour faire performer les garçons, ce mec-là reste encore intouchable. On l'a vu hier. C'est-à-dire que hier, quand il part, tout le monde se dit enfin ouf, il est parti.
Quoi. Oui, c'est vrai. Il domine toutes ses courses. Il y a un renoncement hier quand il part.
Cette année, on dit il a gagné 5 courses de moins que l'année dernière. Oui, parce qu'il a pas fait le Giro. L'année dernière, il a gagné 7 étapes sur le Giro. C'est juste incroyable. Dès qu'il participe à une course, on se demande qui va faire deuxième. La preuve, le championnat d'Europe la semaine dernière, le Lombardie hier, on s'est plutôt intéressé à ce qui se passe derrière plutôt que lui, qui est intouchable. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus fort encore qu'Eddy Merckx. Pourquoi? Parce que la concurrence pour moi est plus forte. Alors il manque des courses,
subjectif,
mais ça va venir.
Ce que
ça
tu
va
dis
venir.
Jérôme, le seul argument que tu nous sers, c'est rempli de subjectivité, je suis désolé. Comment peux-tu dire que la concurrence est plus avérée aujourd'hui que celle du temps de Merckx? Oh, c'était pas des peintres qui couraient avec Merckx. Moi, je veux dire simplement une chose, je pense qu'il faut regarder l'objectivité.
Il y a l'hyperspécialisation quand même, Pascal. Aujourd'hui, il bat des coureurs qui se spécialisent dans chacune des courses. Et lui, il est spécialiste de toutes les courses. C'est ça qui me fait dire
j'ai
ça.
J'ai changé Pascal simplement Merckx, hier soir, j'ai changé parce que je voulais répondre oui. Parce que j'étais pris par le côté contemporain, en fait. J'oublie Merckx parce qu'il y a l'érosion du temps. Mais juste trois chiffres. Merckx, c'est 19 monuments, c'est 5 Tours de France, c'est 3 championnats du monde. Et je te passe les 3 Paris-Roubaix, ou alors les 7 Milan-San Remo, que Pogacar n'a pas encore gagné. Juste ces chiffres-là, 625 courses gagnées, Merckx, juste ces chiffres-là, fait que, de mon point de vue, il vient de dépasser Hino, et il va bientôt, je le crois, s'il continue, dépassera Merckx. Je préfère avoir cette objectivité-là que me donnent les chiffres plutôt que aller dans ta théorie, elle se tient, mais malgré tout, c'est du subjectif.
De toute façon, après, c'est une question subjective aussi.
Aux grands champions qu'ils étaient. Non, mais les chiffres vont faire que le phénomène va prendre le pas sur Merckx très prochainement. C'est les chiffres qui nous permettront de le dire.
Il est en train de tout écrire, mais aujourd'hui c'est le GOAT parce qu'il est en train d'écrire, il est en avance surtout. Il est en avance surtout parce qu'on sait comment il va gagner, on sait qu'il va démarrer.
Il n'y a que 27 ans. Hein.
Exactement. Puis dans la course, il mène un tel train d'enfer que, comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont plus envie de le suivre et quand il part.
Moi, après, je crois qu'ils n'arrivent pas à le suivre.
Ouais, exactement. Il n'y a que Paris-Roubaix aujourd'hui qui doit le fâcher un peu, l'exciter.
Milan-San Remo. Ah, mais ça va venir,
Le problème, c'est qu'on oublie, qui était Eddy Merckx. C'est vrai que ça commence à remonter. Il y a peu. Moi, j'ai des souvenirs de petits garçons de la domination, de l'ultra domination qui exerçait Eddy Merckx sur le Tour de France. Quand tu dis qu'il affrontait pas, qu'il affrontait des coureurs qui faisaient toutes les courses, non. Un mec comme De Vlaeminck qui était le Van Der Poel de Pogacar, il ne disputait que les classiques et il tenait le choc face à Merckx. Un mec comme Thévenet, il faisait les courses par étapes et il affrontait Jim Mondi, c'était pareil. Tu as quand même des noms incroyables de cette époque. Et à l'époque, le cyclisme était peut-être pas le sport numéro un, mais juste en dessous. L'importance du cyclisme était grandiose pour Eddy Merckx. Et Merckx, C'est difficile de les comparer parce qu'il est resté un peu plus longtemps dans le métier. On verra. Je pense que cette comparaison, on pourra la faire qu'au terme de leur carrière. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Et effectivement, quand tu regardes le palmarès, bah, il en manque encore à Poggi pour être l'égal du roi Eddy. Tant qu'il n'a pas gagné Paris-Roubaix, bah, oui, il sera pas l'égal d'Eddy.
À l'époque,
tant
tu qu'il vois, pas gagné, oui, mais il va chercher tout le monde. On peut pas comparer ça. C'est pas possible.
Mais si tu compares le palmarès,
à l'époque d'Eddy Merckx, le Turquino sur Milan-San Remo était un col et déjà là il commençait à larguer sur la Cipressa, c'était, ils étaient plus que 10. Aujourd'hui avec le nombre de vitesses sur les vélos, avec la préparation, avec l'ensemble des choses qui ont énormément évolué, le matos, la prépa, Milan-San Remo c'est une course de sprinter, c'est quand même beaucoup plus difficile pour un coureur comme lui dans les années modernes.
Après, tu peux entendre l'argument aussi, Jérôme, et dire Pogacar aujourd'hui, il a plus d'éléments qui lui permettent de gagner les courses, plus d'informations que n'en avait Merckx.
Il a surtout, Jérôme, une équipe extraordinaire. Merckx avait une très bonne équipe, mais c'est Merckx, rien. Et c'est rien comparé aujourd'hui.
C'est Merckx qui a commencé à prendre les meilleurs coureurs du peloton dans son équipe.
C'était comme tu me dis, c'était commencé.
Comme Bernard a fait.
Mais aujourd'hui, c'est établi. C'est-à-dire que l'UAE, c'est l'équipe. C'est le vainqueur de la Ligue des Champions, l'équivalent du vainqueur de la Ligue des Champions.
Ça, c'est pour ça que ça me fait sourire d'entendre Evenepoel qui dit ça.
Le travail fait par les équipiers de Poggi sur toutes les courses où c'est eux qui mettent, qui font péter tous les autres. Tu dis, voilà, il a une équipe extraordinaire. Et Merckx, effectivement, a commencé lui aussi à rassembler une grande équipe, mais c'était pas du même niveau qu'il y a eu aujourd'hui. Donc,
Non, mais moi, j'ai énormément de respect pour ce qu'a fait Eddy Merckx. C'est notre dieu à tous, Eddy Merckx. Mais, je te dis qu'aujourd'hui, les époques ne sont pas comparables et que c'est d'autant plus remarquable ce qu'est en train de faire Tadej Pogacar. C'est ça qui, moi, me fait dire qu'aujourd'hui, après, c'est déjà le goût dans cette. Alors peut-être dans cette ère moderne.
Okay, c'est le greatest of all time.
Alors c'est pour ça que. Oui.
Le meilleur de tous les temps, Pascal.
Aujourd'hui, le vélo, j'adore ce sport, je rate rien, mais à partir de 100 bornes de l'arrivée, que ce soit une étape du tour ou que ce soit un monument. Dès lors qu'il attaque, j'éteins la télé, quoi.
Pascal, et donc ça, c'est pareil avec Merckx pour le coup. Pascal, c'était pareil. Dans trois ou quatre ans, je nous le souhaite. Même avant. Paul Sexa, c'était la même chose. On s'enflamme. On est comme des fous. Ouais, c'est parce que c'est pas un Français qui fait ça.
Vous m'avez pas laissé finir, et moi, ça m'interroge. Parce que justement, si je reviens à ce que tu dis aujourd'hui, tous les coureurs sont ultra compétitifs. Le milieu du cyclisme est ultra concurrentiel, comme le sport professionnel, quel qu'il soit. Et ce garçon écrase la concurrence d'une manière qui m'interpelle.
Dans quel sens ?
Pour le moins. C'est tout.
Ah ben c'est tout. Non mais t'as compris, il est en train de nous dire que Pogacar est dopé. Là, évidemment. Et alors, est-ce que Alcaraz fait pareil ? Est-ce que Verstappen fait pareil ? Est-ce que les footeux. Non mais ça m'énerve. Pascal, franchement, ça m'énerve. Ce mec-là est largement au-dessus des autres.
J'en conviens, mais ça m'interpelle, c'est tout. Ça m'interpelle.
Donc, dès qu'il y a un cycliste qui domine, il est suspect. Dès qu'il y a un immense champion dans
n'importe c'est l'histoire récente du vélo qui fait que.
Mais c'est ça qui me rend dingue. C'est que pour les restes, pour un Léon Marchand et tout, tu vas jamais imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir le moindre produit qu'il a pris. Mais parce que Pogacar, il a des pédales et des roues, pourquoi il est coupable ?
C'est un scandale. Pascal, t'as réussi ce matin.
Non, franchement, je suis content, Christophe. Vraiment.
Il est 9h25.
Il nous avait dit ce matin, je suis pas très réveillé ce matin. C'est bon, 9h25, il est avec nous. On revient dans quelques instants après sa saison 2025. Pogacar est-il désormais le plus grand cycliste de tous les temps ? On vous attend au 32-16 pour en parler sur notre WhatsApp également. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Cédric Emmons, Christophe Cessieux. Jérôme Pinot se pose la question, alors qu'on est à la fin de la saison cycliste, hein, pratiquement le Tour de Lombardie, c'est souvent la quille, comme on dit. Tadej Pogacar a gagné hier sa cinquième course, son septième Tour de Lombardie consécutif. Est-il désormais le plus grand de tous les temps? C'est la question qui nous anime ce matin. Il y a beaucoup de réponses sur le WhatsApp, hein. Évidemment, beaucoup disent on va le juger à la fin de sa carrière. Beaucoup sont interpellés comme Pascal. Voilà, il faut le dire. dire. On a également beaucoup de messages comme ça. Forcément, les surdominations appellent toujours des questions.
Est-ce que tu t'es posé la question, Pascal, de tes copains de 98, champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde?
Je vais te donner une réponse.
Ils avaient des taux d'hématocrite que même Armstrong n'avait pas réussi à atteindre. Mais ça, tu t'es jamais posé la question là-dessus.
À la seule différence que notre sport engage une dextérité technique, c'est-à-dire qu'on est sur des appuis, un seul appui, et on taquine un ballon avec les pieds. Tu peux te charger comme tu veux. Si t'as les pieds octogonaux, t'as beau te charger, t'auras toujours les pieds octogonaux. Ouais,
alors après, à ce niveau-là,
donc, prends ça avec mesure. Parce que appuyer sur des pédales, alors vous allez me dire que ça requiert une technicité. Je veux bien vous entendre. Il y en a qui sont meilleurs, plus à l'aise sur le vélo que d'autres, mais en priorité, il faut que tu appuies sur les pédales. Et c'est le coffre qui compte.
Il y a beaucoup de défenseurs de Pascal.
Mets la mesure avec le football. Je suis pas naïf.
Évidemment.
Le football échappe pas à la règle.
Il est en train de nourrir la démagogie qui s'empare de toute la population.
Mais non, c'est pas la démagogie. Mais en tout domaine, Christophe, que ce soit, on n'en fait pas, on fait du sport. Mais en politique, par exemple, tu as le droit de t'interroger aussi. Donc en sport aussi, tu peux t'interroger.
Alors
tu es un mouton de panneau.
L'idée de douter en permanence, il faut douter de tout, nous dit Pascal. On peut l'entendre effectivement.
Va prendre une carte et va rejoindre le professeur Raoul, vous serez bien.
On peut se questionner. Mais t'es dur avec moi. Et quelquefois, presque à la limite de l'insulte.
Non, c'est dommage. Respectez-vous.
J'ai le cuir épais.
Bien sûr. Non, mais voilà, on se pose la question sur la grandeur de Pogacar, évidemment, quand on a des super champions.
Il est un goat ou est-ce qu'il est dopé?
Est-ce qu'il est masculin là? Non mais restons effectivement sur le plus grand de tous les temps. Mais bon, déjà pour Gatcher, je pense c'est une grande victoire. Cédric, peut-être il y a des années on disait il faut faire du vélo comme Merckx. Aujourd'hui même les personnes qui s'intéressent pas au vélo connaissent Pogacar.
Ben oui,
ça touche ce genre de truc.
Oui, pourquoi? Parce que il me fascine, parce qu'il domine, parce que il est sur tous les terrains imprévisibles, en montagne, sur le plat, et puis j'aime voir ses performances.
T'as pas besoin d'être un spécialiste pour apprécier Pogacar.
Non, après, j'aime pas comme les spécialistes dans le détail, et puis pour moi, Merckx, c'est lointain. Donc, la comparaison, elle est dure, mais j'aime le voir avec son équipe, j'aime stratégiquement voir comment il prépare ses courses, comment il attaque, et quand il attaque. Et après, je suis désolé. Moi, le voir attaquer, quand tout le monde cale à côté, c'est j'aime ça.
Mais non, mais voilà, il y a beaucoup de je crois que c'est Fred Veil, tu sais, qui disait la même chose. Moi, j'ai envie de voir le moment où il va les lâcher, en fait. Ça reste.
Mais moi, je regarde le Tour de France pour ça. Hein. Ça cale partout dans la montagne, qu'il y a des bordures, après, je me pose pas les questions de Pascal, à savoir s'il est clean, pas clean. Mais
la question qu'on peut se
poser, tant qu'il est pas, du moins. Pour moi, là, il n'y a pas de souci, quoi.
Ah, bah, là, de toute façon, on a rien
du
tout contre
Pogacar. Par exemple, quand on compare Pogacar à Vingegaard, eh bien, Christophe va pas me démentir, mais tout de suite, on dit, ouais, Vingegaard, il est triste, il est si. Voilà, c'est toujours le jugement sous prétexte que, il est plus calculateur, oui, puis il ne s'engage pour l'instant que sur les grands tours et notamment le Tour de France. Mais bon, Vingegaard, il est très bon aussi. Et moi, ça m'ennuie de voir que Pogacar, il est toujours en train de le larguer. C'est parce que je voudrais un peu je voudrais un peu plus de combat, quoi, si t'es mieux.
Tu sais que Vingegaard, il était au championnat d'Europe dimanche dernier, par exemple.
Ah oui, bon,
il a fait un grand board, il a abandonné.
Est-ce qu'il serait pas encore dans la Drôme, d'ailleurs?
Oui, mais cela dit, alors je vais aller sur un autre terrain, ça va peut-être Christophe, parce qu'il est de ma génération. Je trouvais Merckx hyper élégant aussi. Et je trouve Pogacar un peu moins. Voilà, c'est tout.
Il est peut-être moins élégant, mais il est peut-être plus fun, Tadej Pogacar, dans sa façon d'aborder les courses, dans ce qu'il vend.
Merckx était chiant.
Plus de son
élégant,
temps, plus de
élégant
son
aussi dans son comportement. Oui. Cette semaine, par exemple, Pogacar, qui a tout gagné et qui ne s'attaque maintenant plus qu'au monument. L'an dernier, le tour du Trentin ou le tour d'Émilie-Romagne, je ne sais plus quelle course avait eu lieu.
Italie, quoi.
Le Grand Piémont, qu'il a gagné cette année, qu'il a regagné cette année, parce que l'an dernier avait été annulé. L'organisateur est un ami à lui, et l'an dernier, la course a été arrêtée à cause de la flotte, de la pluie. Et il a dit je reviendrai, je te promets que je reviendrai. Cette année, il a changé son programme. Il a mis cette course-là au milieu pour revenir et la gagner. C'est aussi ça, l'élégance.
Et
c'est aussi ça, la grandeur d'un homme. et d'un champion. Et là, pour le coup, ça en est un. Hein, il est au-dessus de ses
adversaires. Et là, il a attaqué en descente.
Ne parle pas de Vingegaard qui, lui, excuse-moi, quand on voit la prestation de la semaine dernière, un mois, à peine trois semaines après la Vuelta, normalement, un coureur après un grand tour, il est exceptionnel.
Bah, il fait les championnats du monde.
Il gagne la Vuelta, il fait pas le mondial. Il arrive, il aurait mieux fait de rester vendre du poisson au Danemark. Il a, c'est pas un coureur, ce mec.
Tu vois, vous êtes lisible. J'aime bien tous les deux vous taquiner, toi. J'étais sûr que si je parlais de Vingegaard, vous alliez m'exploser. C'est sûr et
certain, les deux.
De toute façon, vous faites la paire, Jérôme et Christophe, c'est bien connu, vous faites la paire.
Kevin nous appelle au 32-16. Salut Kevin, bienvenue dans les grandes gueules du sport. Kevin, est-ce qu'il est avec nous, Kevin?
Mais non, il en a marre.
Il s'est fait larguer, là. Il s'est fait larguer.
Il est parti faire du vélo.
Je suis là.
Salut, Kevin, on t'entend.
Ouais, c'est bon. Salut à tous, bonjour à tous.
Pour toi, Pogacar est désormais le plus grand du cyclisme de l'histoire, devant Merckx?
Non, alors je vais commencer par faire un pas de côté, parce que quand on a le débat sur le goût du cycliste, on fait toujours la comparaison Merckx-Pogacar. Moi, j'ai toujours une pensée pour un coureur qui a une carrière interrompue par un événement qui s'appelait la Seconde Guerre mondiale, qui est Gino Bartali. Et je n'ose imaginer la boucherie qu'il aurait pu faire entre 1938 et 1948, ces deux victoires dans le Tour, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, pour revenir sur Pogacar, je suis un peu d'accord avec Pascal sur le côté palmarès, même si je suis aussi d'accord avec Jérôme sur le fait qu'on peut pas comparer les époques. Pour moi, il manque quand même encore quelques cases dans le palmarès de Pogacar pour pouvoir prétendre au statut de GOAT. J'en citerai trois. Pour moi, il a toujours pas gagné la Vuelta. Et donc il faut, à mon avis, pour prétendre au GOAT, avoir gagné au moins une fois les trois grands tours.
Est-ce qu'on le jugera sur la Vuelta, Kevin? On le jugera sur la Vuelta, Kevin?
Ouais, mais sur la ligne de palmarès, quand on regarde la ligne de palmarès, ne pas avoir gagné au moins une fois chaque grand tour, pour moi, ça fait tâche. Donc il faut qu'il y aille une fois, ce serait une formalité. Hein.
Mais il faut qu'il gagne les trois la même année, Kevin, pour devenir le GOAT.
Oui, là, ça serait encore statué après, mais au moins la gagner une fois. Après, il faut qu'il gagne cinq tours de France. Il peut pas être en dessous de Hino, de Durenne et de Merckx et d'Anquetil, donc il en manque un. À moins que Thierry Gouvenou soit un peu taquin et nous mette 200 km de contre-la-montre dans la prochaine édition pour faire monter Evenepoel, a priori ça devrait pouvoir être jouable aussi. Et après, je dirais qu'il lui faut au moins un Paris-Roubaix ou un Milan-San Remo. Est-ce qu'il arrivera à gagner les deux? Je ne sais pas, parce qu'en effet l'époque est différente. Si possible les deux, mais à mon avis au moins les deux. Et moi je pense, moi aujourd'hui, si je suis conseiller de Tadej Pogacar, je valide la case cinquième Tour de France et Vuelta la saison prochaine. Et ensuite,
apparemment l'an prochain, tu vois. Donc déjà, la Vuelta.
Il a pas pris de bon conseiller.
Et ensuite, tu lui dirais dans qui les monuments, c'est ça?
Je pense que niveau UAE derrière, on a la relève avec Del Toro. Donc je pense que son sponsor peut lui foutre la paix sur le Tour de France, parce qu'ils auront un candidat pour gagner les grands tours et le Tour de France. Et donc je pense que, parce que pour moi, pour gagner Paris-Roubaix, il faut qu'il y ait un changement au niveau physique. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de masse, notamment au niveau du haut du corps.
Après, il a fait deuxième,
Il a vraiment sans préparation.
Il a juste raté un virage.
Attention, il fait deuxième sur un Paris-Roubaix sec.
C'est vrai.
On sait qu'il y a des années où comme le terrain est un peu plus
loin. Cette année, à la butte Montmartre, c'était mouillé. Il a pas loin d'être. Il était pas loin de gagner aussi. Je pense que lui, les ingrédients, peu importe.
Mais il gagne pas. Moi, je pense que pour optimiser ses chances d'aller gagner un Paris-Roubaix, il faut qu'il ait, alors je te dis pas de prendre 10 kilos, mais de renforcer un petit peu sur le haut du corps pour avoir une meilleure assise sur les pavés, et il augmenterait, à mon avis, sa cote des chances, mais à mon avis, ça, c'est pas compatible avec le fait de performer sur les grands tours. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une bascule dans sa carrière. Et on sait que les vainqueurs de Paris-Roubaix, souvent, ont un âge un peu plus avancé aussi. La maturité physique sur Paris-Roubaix est supérieure aux autres courses.
Kevin nous a fait effectivement le plan de carrière de Tadej Pogacar.
Bravo Kevin.
On a rappelé le 32-16. Non mais c'est intéressant, du coup on peut se poser la question jusqu'où peut aller Pogacar et que doit faire Pogacar maintenant. Toi, tu es d'accord avec ce que nous dit Kevin au 32-16?
Pour le changement physique, parce que je pense que le Paris-Roubaix il l'a aujourd'hui dans les jambes. Il suffit juste que Mathieu Van Der Poel fasse ce qu'il a en ce moment, c'est-à-dire il a un peu besoin de souffler sur le vélo et qu'il soit moins bien une année, et là il gagnera. Et même
après Roubaix, les gars, cette année ça s'est passé pour lui, même s'il il a chuté, mais c'est aussi la roulette. Hein. Il peut tomber, il peut se faire mal. C'était souvent la question qu'on se posait sur
Reste entre 5 et 7 éditions pour essayer de la gagner.
Si
il y a bien un moment donné,
il
va gagner.
Il faut gagner
Paris-Roubaix, c'est le cas, il le gagnera.
Non, mais là, vous parlez tous de 5-7 saisons, mais on a beaucoup parlé cette saison aussi de Pogacar. Est-ce que mentalement, il a envie de continuer? Quand on commence déjà à se poser ces questions-là après sa victoire sur 4e Tour de France,
il le lasse.
Est-ce est-ce que quand même la le grande reste, interrogation c'est pas la lassitude? C'est
non, quand même non, parce qu'il va être excité pour les monuments. Il va, voilà. Il va s'exciter pour ça.
Les courses l'excite beaucoup.
Ouais, voilà.
Bah, c'est pour ça qu'il faut peut-être se débarrasser du cinquième tour et après.
Quand je dis la routine, c'est je vais loin, mais un Tour de France, c'est très long. Il y a de la préparation. Il faut supporter.
Ça doit être sacrificiel un Tour de France, Jérôme.
C'est énormément de travail. C'est quasiment 12 semaines pour 3 semaines de course. Donc c'est évidemment beaucoup de temps passé loin de la maison. Beaucoup de temps à faire attention à tout. Pour lui, beaucoup de temps à passer à raconter toujours les mêmes histoires.
Bah oui.
Et c'est surtout, depuis quelques années, un Tour de France qui commence très difficile et qui, finalement, lui, il le plie au bout de 10 jours. Si demain, les 15 ou 20 premiers jours sont plus difficiles, il n'aura pas la même lassitude. Bon. Là, il gagne très vite et il écrase très vite ses adversaires.
Merckx, c'est 11 grands tours remportés quand même. Hein. Donc, il faudrait qu'il double.
Oui, mais je te dis, les chiffres pour moi ne sont pas comparables.
Christophe, je regardais hier, il a gagné 34 étapes du tour, 24 sur le Tour d'Italie. C'était n'importe quoi quand même.
Jamais personne pensait qu'il serait un jour titillé. Alors, rattrapé et dépassé. On n'en est pas encore là, mais.
En un mot, oui ou non, il va tout gagner?
Oui.
Christophe? Oui ou non? Pascal?
Oui.
Cédric?
Oui.
Et ben voilà, Tadej, on ne met pas du tout la pression. Dans quelques instants, on va faire le zapping. Mais d'abord, tiens, il faut que je vous parle de notre nouveau jeu, les poupées RMC, sur le principe des poupées russes. Vous savez, les poupées imbriquées les unes dans les autres. Un cadeau dans chaque poupée, iPhone, console de jeu, voyage, et jusqu'à 5000 euros. Vous aurez 45 secondes chrono pour ouvrir un maximum de poupées. Si un cadeau vous plaît, vous vous arrêtez ou sinon, vous repartez avec. Pour jouer tout de suite, envoyez RMC au 732-16. RMC au 732-16. Vous allez me dire plus tard, vous gardez. Où vous ouvrez dans quelques instants le zapping. On est ensemble dans les grandes gueules du sport sur RMC. A tout de suite au 32-16.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux et Cédric Emmens. Christophe disait pendant la pause ce serait super si on pouvait voir un duel vraiment entre Pogacar et Eddy Merckx. Peut-être que l'intelligence artificielle nous le proposera un jour, Christophe, on en parlait hier. Ça pourrait être
l'occasion. Il faudrait mettre toutes les données.
Ou un débat entre Christophe Cessieux et Léon Zitrone.
Ah là, je tordrais le bras.
Cédric Emmens qui a joué contre John Alomou, par exemple. Hein, Cédric, ça, c'est des souvenirs.
Oui, mais je savais qu'il gagnait, moi. C'est
ça. Non, mais en vrai, c'était fou. T'avais conscience que tu jouais face à un des meilleurs de tous les temps?
Non, pas conscience. Mais en tous les cas, un joueur hors norme avec des qualités de vitesse, parce qu'on parle souvent de sa puissance, mais il avait des appuis, une grosse qualité de vitesse aussi. Ouais.
En plus, c'était ton adversaire direct?
Et non, parce que moi, non, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça aurait dû. Mais c'est Vincent Clerc qui se l'est pris en main. Et allez, moi, tiens. Ça m'arrangeait bien.
Allez, tiens, bon match, Vincent. On vous attend au 32-16, évidemment, pour participer dans quelques instants. Le ring des grandes gueules, le tennis, c'est l'événement. La finale entre les deux cousins, Rinderknecht et Vacherot. Pour Rinderknecht, est-ce que c'est la meilleure ou la pire finale possible? On va se poser cette question tout à l'heure. En fin d'émission, je vous rappelle, participez avec vos GG au jeu du sport et remportez votre PC portable de la marque française Altic. Leur mission, simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. 32-16, touche 4 pour participer ou envoyer sport au 732-16, sport au 732-16. Tout de suite, les GG, le zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
On voulait en faire un grand sujet, mais c'est vrai que le tennis a un petit peu tout renversé. Je m'en fous pas, vous me dites. C'est le remake des deux dernières finales du top 14. Le Stade Toulousain reçoit l'UBB à 21h05 ce soir sur RMC, mais sans plusieurs cadres des deux côtés. Cédric?
Je m'en fous pas.
Christophe?
Bah non, pas, s'en fout quand même.
Pascal?
Non.
Jérôme?
Évidemment que non.
Évidemment que non, remake. Donc on rappelle, hein, Stade Toulousain a gagné les deux dernières finales du top 14, mais l'UBB avait gagné en Coupe d'Europe. Les Bordelais se présentent sans Lucu et Moefana, qui sont toujours blessés, on le rappelle, mais avec Jalibert et Bielbiaré qui sont laissés au repos également. Alors il y aura Penaud qui va débuter au centre de Porter sur le banc. Toulouse, je vous rappelle, toujours sans Dupont, Movaca et Cross. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand même de voir l'UBB sans ses stars? On a posé la question à David Mellet, l'entraîneur du Stade Toulousain.
Je pense que tout le monde s'attend à avoir un gros match, de voir deux grosses équipes. Il manque des joueurs aux deux équipes, donc je pense que c'est frustrant pour le spectateur, pour la personne qui a acheté ses places pour venir au match et assister à une grosse partie. Attention, l'équipe qu'ils envoient, peu importe l'équipe alignée en face, je pense que c'est un vrai test, quoi qu'il arrive. Ils viennent chez nous avec des intentions, ils sont venus gagner l'année dernière. On va tomber contre une grosse équipe, peu importe qu'ils fassent tourner ou pas. On va tomber sur une équipe qui va venir avec beaucoup d'intentions et d'ambition.
Beaucoup d'intentions et d'ambition pour l'UBB à Ernest Vallon, mais... mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent, Cédric. Hein. On a envie de voir toutes les stars, évidemment, pour un Toulouse UBB. Tout le monde ne sera pas là. T'es un peu frustré, toi, ou tu comprends ?
Alors, je comprends, mais après, je me mets à la place du diffuseur. Je cale ce match. En plus, il y a des événements sur la chaîne du diffuseur ce week-end.
Et il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end.
Et il n'y a pas de Ligue 1, donc on s'est dit pourquoi pas mettre un Toulouse-Bordeaux. Toutes les stars sont là. Je me mets à la place du spectateur ou de l'abonné. Je paye pour voir les stars. Et après, je me mets à la place de Yannick Bru et je me dis...
Le manager du UBB.
Oui, voilà, de manager. Il faut faire tourner, récupérer. Il sait que l'année dernière, il a plutôt bien fait, champion d'Europe et finaliste du top 14. Il faut choisir ses match. Après, l'équipe qui arrive de Bordeaux, rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient fait un peu la même chose.
On a eu le même débat l'an dernier, c'est vrai.
Ouais, ils ont fait un peu la même chose, ils ont gagné. Toulouse, quand ils sont partis à Clermont, ils avaient fait un peu tourner. Cette année, ils ont gagné. Il n'y a plus d'impasse. On ne peut plus parler comme à mon époque d'impasse. Aujourd'hui, il y a 30, 40 joueurs de très bon niveau dans les clubs. Il peut y avoir une surprise. On peut s'attendre à une stratégie complètement différente de la part de l'UBB sur ce match-là, où ils vont peu envoyer de jeu, ils vont occuper et ils vont contrer les Toulousains. Et on sait que cette équipe de Toulouse, quand elle est acculée ou elle doit se jouer, surjouer, elle peut se faire contrer. Alors, ça va être forcément, et je suis d'accord avec David Mélé, ça va être forcément un gros match. Maintenant, je vous dis, de ne pas voir les stars, c'est gênant. Mais c'est notre championnat. Il est tellement long, tellement dur.
C'est la formule du championnat.
La formule, elle est dure parce que tu joues, tu as la Coupe d'Europe au milieu, tu as l'équipe de France au milieu. La vraie question, c'est, on en parlait hors antenne, c'est de se dire pourquoi pas primer les équipes quand sur les grosses affiches mettent leurs stars sur la pelouse.
Ouais.
C'est-à-dire,
tu leur autorises plus de salary cap s'ils mettent toutes les stars sur la pelouse.
Parce qu'aujourd'hui, quand on est à...
Parce que tout le monde se plaint. Ah, on gagne pas assez de sous, parce que le salary cap. Eh ben, venez tous sur le terrain.
Mais je me mets à la place du diffuseur. Aujourd'hui, je programme ce match-là. Je me dis, on est...
Dimanche soir, 21h05.
Dimanche, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Mais c'est la promotion parfaite pour le rugby.
Exactement, parce que là, pour le coup, celui qui suit le rugby d'un petit peu loin, il connaît au moins le 15 de France et les stars, il se retrouve ce soir avec le grand match, il voit pas ce qui lui est promis, en fait.
Et puis, il y a les tests qui arrivent, on aurait aimé savoir où on en était de Jalibert, Intamac, de Porter au milieu.
Mais il y a plein d'histoires à raconter autour de ce match, normalement. C'est comme, en fait, alors, évidemment, les comparaisons avec le foot, elles marchent pas, parce que c'est des sports complètement différents. Mais malgré tout, un Real Barça, on sait ce qu'on va trouver.
Toi qui as travaillé avec Eric Bail, qui a bossé à Canal, j'aimerais bien voir la tête d'Eric, qui est le patron et qui justement est vraiment le mec qui gère tout sur le rugby à Canal et qui notamment gère aussi les droits. La tête qu'il fait quand il lit que nous on va venir avec l'équipe parce que Bielbarré
mais forcément
il doit s'arracher les cheveux
parce que la programmation des matchs ils annoncent, du moins on l'a vu toute cette semaine, le remake de la finale, le champion d'Europe contre le champion de France et Bordeaux fait tourner, forcément c'est compliqué pour lui, qu'est-ce que tu vends derrière, mais je le redis, il n'y a plus d'impasse. Il y a un match qui est différent. Tu ne verras pas les stars de Bordeaux, mais tu auras un vrai gros match de rugby.
L'année dernière, ils sont venus gagner à Toulouse, mais il y avait quand même dans l'équipe Jalibert, il y avait Lucu, il y avait Moefana, il y avait Bielbiaré. Hein, c'était un niveau supérieur à celle qui sera alignée tout à l'heure.
Pascal, toi, ça te chagrine un peu aussi, je crois, non, quand même, de ne pas voir les stars.
Je vais adoucir mes propos parce que j'adore Yannick Bru, donc et je comprends. En fait, je suis à la fois surpris et compréhensif. Surpris parce que, en fait, malgré tout, on est à la sixième journée du championnat. Je sais que les cadences sont infernales, mais ces cadences-là, internationales, Coupe d'Europe, elles n'ont pas commencé encore. Et Yannick, je lis, je regarde beaucoup, j'observe. Il n'est pas très content du début de saison. Il a l'impression que son équipe, c'est ce que je ressens, c'est un peu embourgeoisé. Donc, je me demande s'il n'a pas fait exprès. Parce qu'il sait qu'il a aussi de la marge, moins que Toulouse. Est-ce qu'il a pas fait exprès de pas mettre les cadors pour un peu les titiller alors que c'est un match déjà phare contre le Stade
Toulousain? Tu as raison, Pascal, parce que il va les vexer. Parce que c'était l'affiche.
Il veut vexer ses mecs.
Parce qu'aujourd'hui, l'UBB tourne pas comme ils doivent tourner, ou ils nous ont montré qu'ils avaient l'habitude de tourner. Et là, il les vexe parce que quand tu es joueur de rugby, tu t'entraînes pour faire ces matchs-là. Et quand l'entraîneur, il te met pas, tu te dis, c'est pas possible, c'est un autre qui va jouer, c'est un autre qui va briller, les tests arrivent. Donc ça peut être une forme de...
C'est ça, c'est c'est quand
pas de remise en question, mais une forme de, allez, on va dire, je vais aller les titiller, les piquer un peu. Tu as raison.
C'est une forme de management quelque part.
Il va aussi, il va peut-être les attendre sur un match, peut-être. Le prochain, qui sera un match un peu moins sous la lumière.
Brille,
mais à ce moment-là, il va dire, oh les garçons, vous remettez le bleu de chaud, vous remettez le couvert, là, comme l'année dernière ou pas.
L'UBB qui a été fessé sur ses deux déplacements à Paris, face au Racing, face au Stade français.
Comme donc, le Stade toulousain.
Comme le Stade toulousain, exactement. Il y a Mayotte, mais
moi, j'ai l'impression que le top 14, c'est un peu le championnat des épiciers. C'est-à-dire que tu calcules en fonction. Alors on a tel match qui va arriver là, il y a machin là. Est-ce qu'on a des chances de gagner là?
Christophe,
non, on a
pas obligé. De chance. Mais Christophe, mais t'es obligé.
C'est la formule qui
regarde,
veut ça.
Regarde le match hier entre Bayern et Pau. C'est
négatif. Cette impression-là, quand même.
La répétition, ce genre de choses, est-ce que ça nous dit pas véritablement que la formule n'est peut-être pas la bonne?
Mais la formule n'est pas bonne.
Mais la formule n'est pas bonne. On se régale pendant les phases finales.
Là encore une fois, je suis pas d'accord avec vous. Le top 14, franchement. Il s'est amélioré.
Non, mais c'est le niveau du top 14.
Il est génial, le top 14.
On est d'accord.
Les enfants.
Sauf que, à force de faire les épiciers, on fausse un peu les choses. On se dit, je mets mes pions là, ça devient stratégique aussi. Comment placer ta saison? On sait que le Stade toulousain, on sait que Bordeaux, ce qui va les intéresser, c'est ce qui va arriver en janvier, février. Donc, ils vont être dans le dur. Ils vont se qualifier pour la Coupe d'Europe, ils vont être bien placés en championnat, ils vont refaire des rotations, mais le début de saison, ces équipes-là, elles n'ont pas eu le temps de se préparer.
Ouais,
donc, généralement, tu utilises ce début de saison pour monter en puissance. Mais comme le championnat s'élève, le niveau est de plus en plus fort, eh ben, tu te fais attraper. Tu vas à l'extérieur,
c'est
tu
le
fais
cas,
tourner un
c'est
peu.
Un peu aussi le cas en Ligue 1 cette année avec le Paris Saint-Germain qui joue la Coupe du Monde cet été et qui n'est pas à plein régime encore. Alors, on est blessé, mais c'est la même chose.
On a fait un PSGOM, tu as toutes les stars sur la pelouse.
Bah, regarde Bayonne, t'avais pas toutes les stages.
Regarde Bayonne, celles qui sont blessées.
Regardez Bayonne, ils n'avaient pas l'habitude de faire une saison aussi longue, du moins hier.
Mais comment ils ont pété comme des pop-corn hier.
Ça pète de partout. Donc,
je reviens du côté du manager aussi. N'oubliez pas une chose, c'est qu'ils ont un groupe à faire vivre. Et chez les rugbyman, c'est 40 gonzes, mort de faim. Donc il faut aussi faire en sorte que les temps de jeu ne soient pas certes équilibrés, mais suffisants pour faire vivre ce groupe, pour créer encore et toujours l'émulation, de telle sorte que
cette histoire de diffuseur et manager et club, c'est chacun son camp en fait. Bien sûr. Sait qu'on a besoin des uns des autres, mais arrivant le jour J, même si l'organisateur te dit bah oui mais nous enfin on a besoin des stars, mais lui il manage, c'est-à-dire que lui comme tu dis là, je te rejoins Pascal, il pique ses joueurs, il a besoin du plein régime de l'ensemble de ses 40 mecs et pour manager parfois de faire louper un très grand joueur qui se dit moi je suis indiscutable sur ce match-là, bah tu vas pas jouer, ça peut aussi le piquer. Et c'est chacun
je connais pas les autres vestiaires, je connais pas les autres vestiaires, je reviens sur ce que Pascal disait sur le management des groupes dans un vestiaire, ça peut aller très vite
dans un sens comme dans l'autre.
Oui, dans un sens comme dans l'autre, mais surtout dans l'autre. C'est-à-dire que si tu vexes des joueurs, parce qu'on est un sport physique, ça peut vite se régler. Moi, j'ai connu des années au Stade toulousain où ça se battait à l'entraînement. C'était chaud parce que la concurrence était dense. Donc, vaut mieux se battre face à son adversaire que face à entre coéquipiers.
Tu vois, j'ai vu un reportage sur une chaîne, on va dire réputée en France, sur l'UBB, et t'as le directeur de la performance qui s'adresse aux joueurs et qui dit mais depuis le début de saison il n'y a pas une bagarre à l'entraînement. Comme quoi il faut se battre. Aussi vous battre à l'entraînement.
Mettez-vous sur la gueule, on va gagner.
C'est obligatoire. On vient de faire le premier zapping à une information. Mais là, quand ça prend, parfois, il faut prendre le temps. Ça veut dire que c'est un sujet important.
On était parti sur un débat au départ.
Mais ça veut dire qu'on s'en fout vraiment pas, en fait. Voilà, c'est ce que ça montre.
C'était quoi
à l'auditeur.
Les autres zappings que tu avais sélectionnés?
C'est un sacré match.
On avait parlé de la Coupe du Monde de foot qui pourrait se disputer en hiver tout le temps, maintenant, à l'avenir. On avait d'autres choses. Le coup de com' de LeBron James.
Moi, c'est fait exprès parce que je ne vais pas
sur une autre date. Ils m'ont dit, viens, on va parler de
Toulouse-Bébé.
Et hier soir, j'ai dit, mais je viens toujours ou pas?
Tu vois qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi encore pendant deux heures, évidemment, avec Cédric, Pascal, Christophe et Jérôme, les grandes gueules du sport. On va parler tennis dans quelques instants. C'est un dimanche de cousinade. Rinderknecht contre Vacherot en finale d'un Masters 1000. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.